Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Chacun d'entre nous aspire à être logé correctement et l'addition de ses besoins individuels aboutit à la création d'un marché, le marché de l'immobilier. Un marché qui est parfois laissé aux bons soins des investisseurs privés, mais souvent, très souvent, l'État s'en mêle, tant ce secteur joue un rôle clé dans le fonctionnement des économies modernes. Alors, pourquoi l'immobilier a-t-il cette importance? Quel est le lien entre la construction d'une maison, d'une ville et la croissance du produit intérieur brut? Quelle est la différence entre une bulle immobilière et un simple cycle immobilier? Et quand une bulle immobilière éclate, pourquoi entraîne-t-elle toute l'économie dans sa chute? Voilà quelques-unes des questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Thomas Gébine.
Bonjour.
Thomas Gébine, vous êtes économiste au CEPI, le Centre d'études de prospective et d'informations internationales. Vous y travaillez plutôt sur la macroéconomie internationale, les monnaies et sur les cycles immobiliers. Qu'est-ce que c'est qu'un cycle immobilier ?
On peut essayer de définir assez simplement un cycle immobilier comme une phase de hausse des prix immobiliers qui suit suivie par une phase de retournement, c'est-à-dire une phase de baisse des prix immobiliers. Et donc un boom suivi d'un bust, comme on dit en anglais.
Comme on dit en anglais. Avec nous également dans ce studio, Vincent Renard. Bonjour Vincent Renard.
Bonjour.
Vincent Renard, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, conseiller auprès de la direction de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, l'IDRI. Vous avez longtemps enseigné à l'Institut d'Études Politiques et à l'École des Ponts et Chaussées. Vous êtes un spécialiste des marchés immobiliers. Une bulle immobilière, c'est quoi ?
Une bulle immobilière, c'est quand on ne comprend plus ce qui se passe et que les chiffres montent des hausses complètement déraisonnables par rapport à ce qu'est la sagesse commune. Alors le problème, c'est que les bulles durent.
On va voir ça dans cette émission, au cours de laquelle nous allons bien sûr diffuser des reportages. Nous irons rejoindre Heike Schmidt à Pékin, Eric Sanson à Quito en Équateur et Pascal Thibault à Berlin. Commençons par la France, puisque nous sommes à Paris, la croissance économique est assez faible, le gouvernement vient de diminuer à 1,4% ses perspectives de croissance pour l'année 2016 au lieu de 1,5% qu'il avait prévu. Et pour conforter cette croissance, le président Hollande a fait une volte-face au cours de la deuxième partie de son mandat. Il a décidé de miser sur l'immobilier pour relancer l'emploi et la croissance. C'est ce qu'on peut lire dans certains articles de presse. Qu'est-ce que cela veut dire, miser sur l'immobilier pour relancer emploi et croissance, Thomas Gébine?
Peut-être deux mots juste pour résumer ce quinquennat. Il me semble qu'il y a eu deux phases. Il y a eu d'une part une première phase entre 2012 et 2014 où il y avait une volonté de faire baisser les prix immobiliers. Donc c'était un peu symbolisé par Cécile Duflot qui disait qu'il fallait faire éclater la bulle. Et donc ça s'est matérialisé notamment par la loi Allure. Le problème, c'est que cette phase, elle s'est accompagnée d'un retournement du marché immobilier. Je dis pas que ça a causé, mais en tout cas, ça a eu lieu. À partir de fin 2011, il y a eu un retournement du marché immobilier.
Et ce qui est c'est-à-dire les prix ont commencé à baisser.
Les prix ont baissé et ça s'est accompagné d'une baisse importante de la construction.
Mais 2011, c'était avant.
Avant. Donc justement, ça s'est passé avant
l'arrivée au pouvoir.
Avant l'arrivée au pouvoir. Et ce qui est probable, c'est que quand vous annoncez que vous souhaitez un éclatement d'une bulle, ça peut jouer sur les anticipations des ménages et donc ça peut un phénomène un peu auto-déclenchant. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que quand le gouvernement a annoncé de façon extrêmement répétée, qu'il voulait un éclatement de la bulle, ça a pu accompagner le retournement des anticipations et la baisse des prix qui a eu lieu entre 2012 et 2014. Probablement ensuite, ce retournement du marché immobilier a pénalisé la croissance en France. Par exemple, entre 2012 et fin 2015, ça a été la construction a été la principale contribution négative à la croissance en France. Donc il y a eu certaines inquiétudes, je pense, au sein du gouvernement. Et donc il y a eu un retournement à partir de la fin 2014, une espèce de volte-face. Donc il y a eu deux mesures, il me semble, emblématiques. D'une part, la loi Pinel sur l'investissement locatif pour essayer de faire revenir les investisseurs privés. Et d'autre part, part ce que vous évoquiez, il y a eu un renforcement assez important du prêt à taux zéro pour permettre aux primo-accédants, c'est-à-dire les
gens qui achètent pour la première
fois, d'accéder plus facilement à la propriété. Et un changement de cap assez important par rapport au début du quinquennat. Et ce qu'on observe depuis quelques mois, je veux pas dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas ça accompagne, c'est qu'il y a une certaine reprise de la construction et que les destructions d'emplois dans la construction semblent avoir cessé.
Vincent Renard, vous partagez cette vision du marché de l'immobilier en France analysée par Thomas Jabine ?
Largement, mais je crois qu'on surestime toujours l'impact des mesures. N'importe quel gouvernement, n'importe quel ministre prend des mesures. Mais on n'évalue pas vraiment le résultat des mesures. Le cas le plus typique, c'est Cécile Duflot, je n'en veux pas. Mais enfin, elle a pris des avalanches de mesures et on n'a jamais mesuré l'effet effectif de ces mesures. Alors d'autre part, c'est toujours les politiques longues, des politiques lentes, et donc les effets vont se faire sentir en 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais c'est pas un malheureux ministre ou une malheureuse ministre qui en 2 ans peut obtenir des résultats quels qu'ils soient. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en ce moment, les astres sont alignés, donc il y a un ensemble de facteurs étonnamment favorables à la construction. Les taux d'intérêt,
le prix du pétrole,
etc.
Donc, qui favorise la construction.
Absolument. Donc il y a une conjonction assez étonnante, elle durera ce qu'elle durera. Si les taux d'intérêt remontent, c'est comme la crainte des économistes, là ça peut avoir des effets ravageurs.
Mais comment est-ce qu'il y a un lien tellement fort entre ce secteur de l'immobilier et les résultats économiques d'un pays, la croissance d'un produit intérieur brut, Vincent Renard ?
Il y a 3 réponses. L'emploi. Parce que c'est un très gros employeur, le bâtiment. On se trompe souvent, parce que le bâtiment, ça n'est pas une unité. Il y a des choses extraordinairement différentes sur les différents marchés. Mais globalement, c'est un très gros employeur. Et la relance du bâtiment, il y a un vieux slogan qui malheureusement s'applique toujours. Quand le bâtiment va, tout va. J'ai tendance à penser d'ailleurs qu'il y a un peu l'inverse maintenant, c'est quand le bâtiment va trop bien, tout fout le camp. C'est-à-dire le phénomène de bulle, c'est précisément quand le bâtiment va trop bien.
Vincent Grébine, le lien entre l'immobilier, la croissance, c'est l'emploi.
Oui, je suis d'accord que c'est l'emploi est primordial. Alors, j'ajouterais peut-être 2 canaux dont on peut discuter. C'est d'une part l'investissement, c'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre les prix immobiliers et la construction, et qui ne va pas forcément dans le sens où on pense. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre quand vous avez une hausse des prix immobiliers, vous avez une tendance à avoir une hausse de la construction. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on peut penser. Et réciproquement, quand les prix immobiliers baissent, la construction baisse. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aussi, dans l'immobilier, il y a tous ces phénomènes de bulles. Donc lorsque les prix immobiliers augmentent, vous allez avoir tendance à acheter plus une maison parce que vous allez penser que vous allez pouvoir faire une plus-value. À l'inverse, quand les prix immobiliers baissent, vous allez considérer que c'est un mauvais investissement et donc vous allez retarder votre choix d'investir ou d'acheter ou de construire une maison. Donc c'est pour ça que lorsque les prix immobiliers augmentent, la construction augmente. Lorsque les prix immobiliers baissent, la construction baisse. Et ça marche pas seulement sur l'investissement, la construction, mais on voit s'il y a des études qui essayent de montrer que lorsque les prix immobiliers augmente, vous avez aussi une augmentation de l'investissement total, non résidentiel. Pourquoi ? C'est en partie parce que un bien immobilier est utilisé comme collatéral pour aller emprunter auprès d'une banque. Si vous êtes une petite PME, par exemple, en France, le plus souvent, votre richesse, votre patrimoine, c'est votre bien immobilier. Et donc, si vous voulez...
C'est-à-dire les bureaux, l'usine
Oui, enfin, simplement même votre maison. Si vous avez une boulangerie, c'est simplement votre maison. Et donc, si le prix immobilier augmente, vous allez pouvoir aller voir votre banque et demander plus d'argent auprès de votre banque. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des études, par exemple, à partir de données de l'INSEE, qui montrent que ça va favoriser la création d'entreprises. Parce que justement, ça va être plus facile de convaincre l'emprunt pour emprunter et donc vous allez pouvoir investir à partir de là. Donc il y a ces liens. Puis il y a un deuxième lien qui est beaucoup plus controversé, c'est le lien entre les prix immobiliers et la consommation, ce qu'on appelle les effets de richesse. Donc il y a un débat.
Si la banque vous prête de l'argent, elle peut aussi le prêter pour consommer.
Elle peut vous prêter pour consommer, mais il y a aussi un effet, c'est que qu'on tend à observer, c'est que lorsque les prix immobiliers augmentent, la consommation tend aussi à augmenter. Donc, ce qu'on peut appeler les effets de richesse, c'est que les propriétaires se sentant plus riches vont consommer plus. Bon, c'est assez controversé.
Vincent Renard, vous?
Oui, absolument. J'ai vu des études économétriques tout à fait précises, vous les connaissez mieux que moi, qui sont parfaitement contradictoires sur l'effet richesse. Donc c'est difficile de se faire une idée sur ce qu'est l'effet richesse proprement dit, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation résultant de cet accroissement du patrimoine versus les effets à long terme des variations de patrimoine. J'ajoute immédiatement que la connaissance des patrimoines est médiocre et faible. L'INSEE fait du très bon travail, on va lui rendre hommage.
L'INSEE, c'est l'Institut français de statistique,
précisons-le. Mais enfin quand même. L'INSEE, c'est l'Institut de statistique et qui fait de l'excellent boulot.
Mais ils ont des connaissances limitées, vous dites.
C'est toujours en retard. Ensuite, c'est pas géolocalisé, donc on sait pas exactement de quel sous-marché on parle. Alors, il y a des sous-marchés qui sont attractifs à un moment, qui disparaissent à un autre moment. Les centres commerciaux sont un moteur tout à fait important. Le bâtiment, le logement, c'est plus compliqué, plus controversé. Donc, il faudrait différencier les différents marchés.
Alors, on va voyager un peu, on va commencer cette pérégrination immobilière à travers le monde. Allons d'abord en Allemagne. Le marché immobilier, il y a longtemps connu un développement à part des autres marchés immobiliers européens. Après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est terminée en 1945, le pays, l'Allemagne, était détruit et la reconstruction a favorisé une offre abondante de logements avec des prix, somme toute, très raisonnables. Mais depuis 2010, tout a changé. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Pascal Thibault à Berlin.
Berlin reste une ville pauvre et les performances économiques de la capitale allemande sont loin derrière celles du sud du pays où règne le plein emploi. Mais pour l'immobilier, la ville bat des records comme les autres grandes métropoles allemandes. La hausse des prix a été de 50% environ depuis 2010 et le rattrapage ne semble pas terminé. Les prix ont doublé en 10 ans à Berlin avec un prix moyen au mètre carré de 3300 euros aujourd'hui. Arnaud Schott est le directeur associé de la société Aden Immo spécialisée dans l'immobilier berlinois.
On a une conjonction de trois populations, les nouveaux arrivants, les gens qui habitent déjà à Berlin et les investisseurs qui achètent. Cela, couplé au taux d'intérêt bas, fait que la demande est très importante. L'argent placé en banque ne rapporte plus grand-chose. Le placement en bourse est également vu comme incertain, alors que l'immobilier reste la valeur refuge. Quoi de mieux que investir à Berlin où les prix sont plus bas que dans les autres grandes capitales européennes.
La situation est déjà tendue. 40 000 nouveaux habitants s'installent chaque année à Berlin. Des investisseurs étrangers s'intéressent à la ville, également après le Brexit. Les responsables politiques ont tenté avec un succès des plus mitigés de combattre les symptômes en limitant les hausses de loyers ou, comme à Berlin, en luttant contre les logements proposés aux touristes. Reste la cause du problème, le manque de logements. Ulrich Ruppert de la Fédération des locataires allemands.
Nous estimons que 800 000 à 1 million de logements manquent en Allemagne. Pour rattraper ce retard sur la durée, nous avons besoin à moyen terme de 400 000 nouveaux logements par an. En 2015, 250 000 logements ont été livrés. Il nous manque surtout des logements pour les petits et moyens budgets.
Ces hausses sensibles sont-elles saines ou faut-il craindre une bulle spéculative? Le ministère des Finances réfléchit à des mesures préventives. La Bundesbank a rassuré cette semaine. Le spécialiste immobilier de l'Institut de conjoncture DIW, Klaus Michelsen, se veut aussi serein.
Nos analyses montrent qu'il n'y a pas de bulle spéculative dans notre pays. Mais nous observons dans certaines villes un décrochage des prix de l'immobilier par rapport à leur valeur de référence et entre ces prix et le niveau des loyers.
Le déclin démographique de l'Allemagne freinera-t-il à moyen terme l'évolution actuelle? Cela n'est pas sûr. Si les campagnes vont se dépeupler encore plus, les grandes villes attirent de plus en plus de résidents.
C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Pascal Thibault à Berlin. Thomas Gjebin, je vous voyais sourire en écoutant les chiffres avancés par Pascal Thibault, ou ses interlocuteurs, 800 000 à 1 million de logements manquants, ça vous a fait réagir?
Non, ça m'a fait réagir parce que je trouvais que les arguments, on aurait pu faire ce reportage exactement sur la France. C'était exactement les mêmes chiffres qu'on dit en France. Il y a une hausse des prix parce qu'il manque 800 000 à 1 million de logements et donc il faut toujours construire plus pour faire baisser les prix. Moi, j'ai quelques doutes sur cet argument. Chaque fois qu'il y a des hausses des prix, on vous explique qu'il y a une pénurie de la construction. Je suis pas persuadé que les prix augmentent à Berlin parce que il y a une pénurie de la construction. Il me semble.
La loi de l'offre et de la demande ne s'applique pas à l'immobilier?
Elle s'applique à l'immobilier, mais je pense qu'il y a des effets spéculatifs qui sont très importants dans l'immobilier et qui dépasse, comme on voit en France par exemple, les prix immobiliers, on sait, par exemple à Paris, ont doublé ces 15 dernières années, mais ils ont aussi augmenté de façon très, très forte dans le Berry ou dans la Manche, là où il n'y a pas vraiment une pénurie d'offres. Donc je pense qu'il y a des phénomènes spéculatifs qui peuvent être plus importants pour expliquer ces dynamiques. Et ce que je trouve aussi, peut-être juste un autre mot, c'est sur l'Allemagne, c'est que ce qu'on observe, il me semble, c'est une désynchronisation du cycle immobilier allemand par rapport au cycle immobilier qu'on a dans les autres pays de l'OCDE. Schématiquement, à partir des années 80, il y a eu une hausse des prix immobiliers dans la plupart des pays de l'OCDE. Il y a eu des bulles en Espagne, en France, en Royaume-Uni, aux États-Unis, ça, et pas en Allemagne. Et à l'inverse, au moment où les prix baissaient dans tous ces pays, en Allemagne, les prix ont commencé à augmenter dans les années 90. Et donc, vous avez eu une petite bulle immobilière, notamment en Allemagne de l'Est, dans les années 90. Puis, à la fin des années 90, les prix ont baissé au moment où les prix commençaient à augmenter dans les autres pays. Et ce qu'on observe aujourd'hui, je pense, c'est une continuité de cette désynchronisation du cycle immobilier allemand. C'est-à-dire que les prix n'ont pas augmenté, ou très peu, dans les années 2000. Et maintenant, ils commencent à augmenter. Et donc, on pourrait observer ce qu'on a observé dans les autres pays de l'OCDE.
Vincent Renard, c'est pas simplement un rattrapage de l'Allemagne?
Il y a très largement une phase de rattrapage. Je me souviens, j'étais déjà adulte quand il y a eu la chute du mur de Berlin, et il y a eu une ruée sur Berlin d'investisseurs qui étaient prêts à acheter n'importe quoi, tout et n'importe quoi. La Friedrichstrasse, par exemple, il y avait des anticipations avec doublement des prix. Il ne s'est rien passé sur la Friedrichstrasse. Les loueurs de bureaux ont dû rectifier à la baisse. Donc il y a eu vraiment une désillusion qui a duré une dizaine d'années à Berlin, de gens qui s'étaient rués dessus.
Il y avait des gens, les prix vont monter, on va faire monter, on va faire de bonnes affaires.
Il y avait des charters entiers d'architectes qui venaient construire. Et il y en a qui ont construit des opérations d'ailleurs spectaculaires, mais one shot.
Mais est-ce qu'il y a un lien entre cette modicité des prix de l'immobilier en Allemagne et la réussite économique de ce pays?
Écoutez, alors le lien, ça, à mon sens, il y a une politique publique forte en Allemagne qui a toujours eu un impact sur les prix, à la différence de la France, sauf certains lenders, parce que les lenders sont pas tous égaux. Mais globalement, il y a une politique forte d'offres foncières. Et ça a été largement l'explication des besoins satisfaits, si je peux dire les choses comme ça. Ça s'est détraqué largement dans les 10 dernières
Mais années. Est-ce que ça a un lien avec la réussite économique du pays? Est-ce que, par exemple, on dit souvent qu'en Allemagne, la faiblesse des prix facilite la mobilité des travailleurs, au contraire de la France, et que donc ça facilite l'employabilité?
Globalement, c'est vrai, mais surtout le phénomène central, c'est que c'est une fédération, ça n'est pas un État centralisé. Ça, je crois que c'est la force de l'Allemagne, et que j'aspire mes vœux pour mon cher pays à ce qu'on décentralise un petit peu au niveau des États.
Thomas Gjebin?
Je suis tout à fait d'accord avec la première partie du diagnostic, à savoir le fait qu'il y a eu vraiment un emballement, et je pense que les Allemands ont été en partie vaccinés par la baisse. Peut-être on verra ce qui se passe par exemple en Espagne, et donc pendant une dizaine d'années, ils ne croyaient plus en l'immobilier, ils ne voyaient plus ça, enfin ils avaient subi une baisse, beaucoup de personnes avaient perdu beaucoup d'argent, et donc ils ne voulaient plus réinvestir dans ça. Et alors le lien qu'on pourrait voir, il me semble, entre les performances allemandes et le cycle immobilier allemand, c'est quand même que lorsque vous avez une baisse des prix immobiliers, ce qu'on observe, c'est qu'en général, ça s'accompagne d'une baisse des salaires ou une baisse relative des salaires. Et à l'inverse, lorsque vous avez une hausse très forte des prix immobiliers, ça va pousser les salaires vers le haut, ce qu'on a vu en Espagne. Et donc tout le débat sur la compétitivité, que l'Allemagne a fait des gains de compétitivité très importants à la suite des réformes Hartz en 2003-2005, je pense qu'il y a probablement eu un effet de ces réformes Hartz, mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y avait une baisse de ce cycle immobilier en Allemagne, alors que en France, en Espagne par exemple, il y avait une hausse très forte des prix immobiliers qui poussait les salaires à la hausse.
Donc la modicité des prix de l'immobilier en Allemagne joue un rôle dans la forte compétitivité de ce pays et le fait qu'ils exportent des masses de produits transformés dans le monde entier.
En tout cas qu'ils importent moins, et je pense qu'à l'inverse, par exemple, quand vous avez une hausse des prix, ça va doper votre consommation, et donc si vous consommez, investissez plus que n'épargnez, vous allez avoir un déficit courant, c'est-à-dire un déficit commercial. Et donc ça peut jouer sur ce débat sur la compétitivité.
Eh bien, nous continuerons cette discussion dans la deuxième partie de cette émission, puisque pour l'instant, nous avons rendez-vous avec un flash d'actualité. Je vous dis à tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la deuxième partie de cette émission consacrée à l'immobilier, moteur de croissance économique. Deux invités dans ce studio pour en parler. Thomas Gjebin, économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, et Vincent Renard, directeur de recherche au CNRS, conseiller auprès de la direction de l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons parlé de la France, dont le gouvernement cherche à s'appuyer sur l'immobilier pour relancer la croissance. Nous avons aussi vu ce qui se passait en Allemagne, où les prix de l'immobilier commencent à monter, à Berlin en particulier. Première question pour cette deuxième partie, Vincent Renard, on l'a brièvement évoqué au début de l'émission. Quelle est la différence entre une simple hausse des prix immobiliers et ce qu'on appelle une bulle ?
Le mot « bulle » s'est développé il y a une quinzaine d'années à peu près. D'abord, à partir de travaux tout à fait théoriques sur la théorie des anticipations rationnelles, je m'étends pas là-dessus. Prenons le sens courant du mot « bulle », c'est-à-dire quand la hausse des prix dépasse tout ce que des raisonnements standards laisseraient attendre. Alors, les bulles ont commencé à se développer. Le problème est qu'on ne sait pas tester ce qu'est une bulle. Il faut attendre 10 ans après pour savoir que c'était effectivement une bulle, parce qu'il y a des bulles très durables. J'ai moi-même écrit un article il y a quelques années sur « Vers une bulle durable » au début des années 2010, quand en effet, année après année, on annonçait que ça allait se casser la gueule, et en fait, de se casser la gueule, ça continuait à croître et à embellir. Et ça a été largement le cas au début des années 2000, notamment. Mais il y a eu des bulles célèbres avant. Il y a eu la bulle japonaise, qui a sidéré tout le monde avec des hausses de prix de l'ordre de 100%.
En quelle année?
Les années 1985, où les prix immobiliers, foncier immobilier, c'est pareil, parce que l'essentiel du prix, c'est le foncier.
C'est-à-dire le terrain?
Le terrain.
Vincent Gjebin, vous auriez la même définition d'une bulle?
Oui, tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé au Japon et même dans les années 80 aux États-Unis, qui s'est reproduit presque à l'identique dans les années 2000. C'est-à-dire que dans les années, par exemple, aux États-Unis, vous avez, alors c'était plutôt une bulle de l'immobilier commercial, mais vous aviez aussi une espèce de mouvement de subprime qu'on appelait les junk bonds, les obligations pourries. Et à la fin des années 80, entre 86 et 91, par exemple, il y a eu 900 banques américaines qui ont fermé ou qui ont été aidées par le fonds d'assurance des dépôts bancaires. Donc il y a eu déjà à l'époque une forme de crise des subprimes.
Mais la bulle la plus célèbre, en tout cas en Europe, c'est peut-être la bulle espagnole. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne ?
En Espagne, il y a eu, je pense, un emballement des anticipations, c'est-à-dire que les gens se sont persuadés que les prix allaient augmenter perpétuellement et donc qu'il fallait se précipiter pour acheter aujourd'hui, pour construire, parce que c'était le bon moment pour investir et qu'il fallait pas manquer le train qui était en marche. Ce qui est toujours le phénomène de bulle, c'est que vous vous auto-convainquez que les prix vont toujours augmenter et donc c'est vraiment le moment d'investir parce que dans 6 mois, les prix seront encore plus hauts, donc vous pouvez espérer de faire des superbes, belles plus-values. Et donc en Espagne, ça a été un peu la caricature de ça, puisqu'ils se sont mis à construire, à bétonner des zones où il y avait
rien
aucune
quoi.
Aucune demande.
Et donc, ça, c'est, pour reprendre votre mot, Vincent Renard, ça s'est cassé la gueule. Est-ce que cela a une conséquence sur la situation économique espagnole ?
Complètement. Les Espagnols, c'est une crise lourde et durable parce qu'il y a des opérations entières et des régions entières où l'économie s'est largement effondrée. J'ai vu un reportage sur une ville nouvelle à 25 kilomètres au sud de Madrid qui est pratiquement vide. Donc les quelques investisseurs qui avaient acheté se retrouvent avec un rossignol. Le transport en commun ne sera jamais fait, les équipements publics ne sont pas faits et ça, c'est des ruines des temps modernes. Alors ça, c'est nouveau et c'est quand même le résultat de l'absence de régulation dans le cas espagnol. Pas de régulation bancaire. Donc on s'est mis à prêter, les banques espagnoles se sont mises à prêter hors régulation, ce qui a conduit à des résultats parfaitement calamiteux. Alors ça, ils le savent, mais ils le payent très cher 10 ans après.
C'est-à-dire par une situation économique faite de beaucoup de chômage, en particulier.
En particulier, beaucoup de chômage, et l'emploi, en effet, c'est pas sain du tout.
Alors, il y a un pays qui inquiète beaucoup de monde en ce moment, parce que ce qui s'y passe a fatalement des répercussions mondiales. Ce pays, c'est la Chine. Le milliardaire Wang Jianlin, qui a fait fortune dans l'immobilier, met en garde contre ce qu'il considère être la plus grande bulle immobilière de l'histoire. Au mois d'octobre dernier, les promoteurs immobiliers chinois avaient vendu une superficie totale supérieure de 27% à ce qu'ils avaient négocié un an plus tôt. Les prix s'affolent et c'est un reportage Éco-d'ici Éco d'ailleurs, signé Heike Schmidt à Pékin.
Zhang Yansai, jeune père de famille, est à la recherche de la perle rare. Deux pièces au prix abordable dans le quartier Shaoyang, au centre de Pékin. Pourquoi est-ce que vous cherchez justement dans ce quartier ?
Il y a de bonnes écoles ici, le collège et le lycée. C'est pour offrir la meilleure éducation possible à mon fils que je veux acquérir un appartement dans ce quartier.
L'agent immobilier fait entrer son client dans une résidence défraîchie des années 80. Un escalier en béton mène vers un appartement au troisième étage.
Voici la salle à manger. Et côté sud se trouve la cuisine et un balcon.
Et il fait combien de mètres carrés ?
55 mètres carrés. Et il coûte 568 500 euros. Ça fait donc 10 330 euros le mètre carré. Depuis septembre, les prix grimpent à nouveau. Pourtant, le gouvernement a encore adopté des mesures pour endiguer la hausse des prix. Mais par rapport à la fin de l'année dernière, cet appartement coûte deux fois plus cher.
Face à l'engouement des épargnants pour la pierre, aucune mesure restrictive n'est efficace. Même pas les multiples obstacles mis à l'achat d'un deuxième appartement pour un couple marié le rendant quasiment impossible. Une mesure qui a fait exploser le taux de divorce dans des villes comme Shanghai.
Pour le moment, je n'envisage pas de divorcer, mais si nous n'avons pas les 50% d'apport obligatoire pour un couple marié, alors ça reste une option. J'ai besoin de cet appartement pour obtenir l'autorisation de scolariser mon fils ici. Et puis à la banque, l'argent ne rapporte pas, alors les Chinois préfèrent investir dans la pierre.
Dans les grandes villes, les prix flambent, mais dans les villes moyennes, ils dégringolent, dû aux millions d'appartements invendus. La bulle immobilière ne fait que gonfler, estime l'économiste Cao Tianghai de l'Académie des sciences sociales.
La bulle immobilière existe et s'aggrave. Le gouvernement considère que l'immobilier fait marcher l'économie et ne veut pas la fin de la bulle. L'immobilier représente 8% du PIB et si on y rajoute l'acier, le ciment, etc., cela représente 40% du PIB. Si la bulle éclate, l'immobilier entraînera tout dans sa chute et on aura du chômage. Et puis les recettes que les gouvernements locaux fortement endettés engrangent grâce à la vente des terres s'effondreront.
Faute de moyens, Zhang Yansai devra attendre que la fièvre immobilière retombe. Il a encore du temps, son fils Shen Shen n'a que 1 an et demi.
C'est un reportage signé Heike Schmidt à Pékin. Il y a des chiffres incroyables dans ce reportage, Vincent Renard, 10 300 euros le prix du mètre carré à Pékin, 40% du PIB chinois dans l'immobilier. Ça donne des sueurs froides ou ça fait rêver ?
Non, ça donne clairement des sueurs froides et les dirigeants chinois sont parfaitement conscients de la chose maintenant. Le mot bulle, d'ailleurs, baburu, a été traduit en chinois. Alors, il y a quand même un point important dans le cas chinois. La Chine est propriétaire de 100% de ses terres.
Vous voulez dire l'État chinois ?
L'État chinois. Et donc ça, c'est quand même une caractéristique parce que les collectivités locales s'approprient la rente. Ça, c'est quand même un mécanisme qui n'est pas très bien connu. S'approprient la rente et donc quand ça commence à exploser, les collectivités locales chinoises se précipitent sur ce marché-là pour allouer des droits de construire sur des terrains bien placés. Alors ça, c'est un mécanisme pas très bien connu, mais qui a des effets tout à fait ravageurs.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est-à-dire une municipalité...
On fait signer les maires signent des droits d'usage d'un terrain. C'est toujours comme ça que les choses se passent. D'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup de pays très modernes, et on retrouve ça en Suisse, Hong Kong, etc.
40% du PIB chinois dans l'immobilier, Thomas Gevin, c'est du jamais vu.
Oui, c'est peut-être. J'avais vu d'autres estimations qui étaient peut-être un peu moins pessimistes, ouais. Où c'était autour de 25-30%, mais quoi qu'il arrive, c'est gigantesque. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est le fait que depuis 2010, notamment, le gouvernement chinois essaye de faire ce qu'on pourrait appeler un pilotage des prix immobiliers. C'est-à-dire en 2010, par exemple, vous aviez une hausse très importante comme aujourd'hui des prix immobiliers, plus à peu près 17% par an. Et donc, face à cette surchauffe, le gouvernement a essayé de ralentir la hausse. Et mesures restrictives, hausse des taux d'intérêt. Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, quand l'immobilier représente une telle part du PIB, quand vous avez une baisse des prix immobiliers, ben, vous avez un risque pour toute la croissance.
Donc, c'est-à-dire que le PIB baisse.
Le PIB baisse, et donc ça crée du chômage. Et donc, 2011, les prix immobiliers baissent, et donc le gouvernement chinois décide de remettre un boost, c'est-à-dire de relancer la machine. Le problème, ce qu'ils arrivent très bien, ils relancent la machine, nouvelle hausse des prix immobiliers, suraccumulation, une construction très importante, et de nouveau, grosse inquiétude. Et donc là, ils mettent de nouvelles mesures restrictives qui provoquent une baisse, et donc ça, c'est une baisse très importante en 2014. Et donc là, le gouvernement chinois est très inquiet, et ils vont commencer à prendre des mesures très très agressives. Il y a eu, par exemple, entre fin 2014 et début 2016, 6 baisses consécutives des taux d'intérêt.
Mais la baisse des taux d'intérêt, ça facilite l'achat.
Ça facilite l'achat, parce que là, à l'époque, c'était pour relancer la machine. Et donc, ce qu'on observe depuis début 2016, c'est que la machine s'est relancée et s'emballe à nouveau. Donc, on peut se demander combien de temps ce jeu, ce pilotage des prix peut marcher. Pour l'instant, il n'y a pas de crack. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'endettement total ne fait qu'augmenter. En Chine, par exemple, l'endettement total, c'est 260% du PIB. Donc, il y a un moment...
Du
produit intérieur brut. Donc, on peut se dire qu'il y a un moment, la bulle risque d'éclater et que le gouvernement chinois pourra probablement rien faire. Et si c'est 25 à 40% du PIB, la construction, ça peut avoir des conséquences désastreuses pour l'économie chinoise et pour le reste du monde.
Vincent Renard, vous êtes d'accord avec ces perspectives critique,
mettons. Bon, mais je voudrais commenter d'un mot. Je dis parler des mesures tout à l'heure et de l'époque du flou et du machin et du fait que les mesures n'ont que peu d'impact ou que l'impact n'est pas mesuré. Donc on prend des mesures, ça plaît bien, mais tout le monde s'en fout. Dans le cas chinois, ça n'est pas pareil parce que là, les mesures sont suivies des faits et les mesures, c'est sur le financement de l'immobilier. Et le cas, c'est des mesures à effet direct.
Mais là, on voit bien que par exemple, les ménages n'hésitent pas à divorcer pour pouvoir acheter un deuxième.
Ça va jusqu'au divorce, mais il ne faut pas sous-estimer le fait que les modes de vie ont beaucoup évolué en Chine depuis 10 ou 15 ans.
Alors, c'était Codici Eco d'ailleurs sur RFI. Bien sûr, nous parlons immobilier et croissance économique avec deux invités, Vincent Renard, directeur de recherche au CNRS, et Thomas Gjebin, économiste au CEPI. Est-ce que l'immobilier joue le même rôle dans un pays émergent, formidablement émergent comme la Chine, que dans un pays développé, européen ou les États-Unis, Vincent Renard?
Alors écoutez, pour faire du comparatif sur les 210 pays que compte notre bas monde, honnêtement, là je rends mon tablier, c'est trop compliqué. Sur les pays de l'OCDE que nous connaissons bien, en partie sur la Chine, on peut dire des choses parce qu'il y a des chiffres. Mais globalement, ce sont des marchés extrêmement mal connus. Les chiffres sont peu fiables. D'ailleurs, en Chine également, les chiffres sont que très moyennement fiables. Donc le comparatif sur l'impact des mesures économiques et notamment sur la croissance économique, je rends mon tablier, c'est trop compliqué.
Thomas Gjebin, vous ne le rendez pas, votre tablier, rassurez-moi.
Ouais, auprès de mon employeur, il vaut mieux pas que je rende mon tablier. Mais, je suis d'accord que c'est très compliqué. Après, je pense qu'il y a quand même des tendances qu'on peut dégager. Alors, évidemment, c'est pas exactement la même chose qui se passe en Chine, en Espagne, aux États-Unis, mais on voit quand même qu'il y a des choses assez proches qui peuvent se passer. Que vous, à un certain moment, vous avez un emballement, les gens pensent que les prix vont augmenter, que ce soit en Espagne, en Chine ou aux États-Unis, se mettent à construire massivement et la construction peut booster, la croissance pendant un certain temps, jusqu'au moment où il y a un retournement. Et là, vous avez une baisse de la construction, une forte hausse du chômage. Et ça, on l'observe quand même dans la plupart des pays de l'OCDE. On parlait tout à l'heure de l'Espagne. Ce que je trouve frappant en Espagne, c'est que ce qui s'est passé à nouveau dans les années 2000, il s'est passé exactement la même chose dans les années 80. C'est-à-dire, vous avez au début des années 80, vous avez plus de 25% de chômeurs en Espagne. Vous avez une bulle immobilière qui fait baisser le chômage, en gros, à 8%. Retournement du marché immobilier au début des années 90, le chômage remonte à 25%. Puis, nouvelle bulle à la fin des années 90, le chômage passe de 25% à 8%, et aujourd'hui, après l'éclatement de la bulle, on est repassé de 8%, en gros, à 25%. Donc, c'est un peu, c'est des mouvements.
C'est les montagnes russes.
C'est la montagne russe, quoi. Et donc, là, on se dit, il n'y a pas vraiment de mécanisme d'apprentissage, ou en tout cas, il y a un fonctionnement du capitalisme qui pose question.
Alors, on continue notre pérégrination immobilière. Voilà un autre exemple en Amérique latine, cette fois-ci. Petit pays andin, l'Équateur est membre de l'OPEP, car producteur et exportateur de pétrole. Les prix très élevés du brut pendant une décennie se sont traduits par un boom de la construction dans les grandes villes, à Quito ou à Guayaquil en particulier. Mais la baisse des cours mondiaux a porté un coup à ce secteur immobilier malgré la reconstruction en cours après le tremblement de terre du mois d'avril dernier. C'est un reportage Éco-d'ici-Éco d'ailleurs, signé Eric Sanson à Quito.
Ayant frôlé l'hyperinflation à la fin des années 90, l'Équateur s'est stabilisé après avoir adopté le dollar en l'an 2000. Avec des revenus stables et une inflation contrôlée, la population a pu s'endetter à long terme, ce qui a profité au marché immobilier. Autre élément favorable, l'influence du secteur public. Pablo Beltrán, professeur d'économie de l'Université San Francisco de Quito.
Le secteur public a commencé à employer beaucoup de monde avec de très bons salaires. Tout cela financé par plusieurs années de forte hausse du prix du pétrole. Pensant que ces entrées financières allaient continuer, les gens ont donc investi dans l'immobilier en s'endettant beaucoup. L'offre immobilière s'est donc accrue, mais comme le prix du pétrole a baissé, il n'y a pas vraiment eu de bulle.
Symptôme du problème, la demande est en baisse. De nombreux jeunes restent vivre chez leurs parents. Face à l'afflux de logements sur le marché, les loyers baissent, ainsi que la rentabilité du secteur. Le gouvernement a pourtant l'intention de taxer les plus-values immobilières, un projet que défend le député officialiste Virgilio Hernandez.
Le thème de la plus-value a été diabolisé en Équateur. Mais quand on étudie les expériences du Mexique, du Pérou ou du Brésil, on se rend compte que l'État investit beaucoup d'argent en travaux publics, en développement urbain, et que cela augmente la valeur des biens privés, mais que l'État généralement ne récupère pas cet argent. L'impôt sur la plus-value doit être pensé comme un mécanisme de redistribution démocratique.
Un raisonnement que conteste l'économiste Pablo Beltrán.
Cela diminue le désir d'investir dans l'immobilier puisqu'il faudra payer un impôt de plus au moment de la vente. L'impôt sur la plus-value, rajouté à la récession, va déprimer encore plus le secteur de la construction.
Il y a pourtant des leçons à apprendre, des expériences urbaines en Amérique latine. L'Amérique latine, après tout, n'est pas la région la plus urbaine du monde, pour rien.
C'était un reportage d'Éco-d'ici Éco d'ailleurs, signé Eric Sanson à Quito. Thomas Gébin, on entend dire dans ce reportage que l'argent du pétrole passe immédiatement dans l'immobilier, en quelque sorte. C'est une transformation de la rente pétrolière en rente immobilière, c'est ça?
Je ne connais pas assez bien, à vrai dire, la situation locale pour me prononcer sur ce cas, mais à mon avis, oui, si vous avez une forme d'effet de richesse, c'est-à-dire si vous avez une rente pétrolière, les gens ont plus d'argent, ou c'est une source de confiance, et donc peuvent se mettre à consommer des biens logements, quoi.
Vincent Renard, est-ce que ça sert de locomotive à l'économie équatorienne, ce qui se passe?
Il y a une évolution marquée, et je sais que dans plusieurs pays d'Amérique latine, ça a eu lieu, c'est que le comportement des acquéreurs de logements a radicalement changé, et maintenant on raisonne comme en France, où on entend des publicités sur le paiement mensuel pour s'acheter un logement. Et c'est fini, que ce soit l'auto ou la maison, il y a un glissement qui est en train de s'opérer.
En Amérique latine?
Mais en France, en Europe, oui. Dans tous les pays européens, maintenant, on annonce les publicités automobiles disent combien ça coûte par mois d'acheter une voiture.
Et alors?
Eh bien, ces changements de comportement induits par cette transformation, elle est à l'évidence importante. Je suis incapable de l'évaluer aujourd'hui parce que c'est une transformation récente. Elle est en cours.
Alors, Éric Sanson à Quito évoquait à l'instant la politique fiscale du gouvernement équatorien. La fiscalité, c'est un moyen pour un État de capter une part de la manne immobilière. Et plus les prix de l'immobilier sont élevés, plus les impôts qu'on prélève le sont. Alors, est-ce que ça n'est pas aussi pour un gouvernement une incitation à vouloir des prix immobiliers très élevés en règle générale?
Oui, ça peut être une incitation parce que, notamment par exemple dans les pays où vous avez une taxe foncière, dans beaucoup de pays vous avez une taxe foncière dont la base peut être révisable. Et donc si chaque fois que les prix immobiliers augmentent, ça fait augmenter votre base fiscale, vous avez une incitation à. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, par exemple les impôts sur les plus-values dépendent aussi des prix immobiliers. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ont un intérêt à ce que les prix immobiliers augmentent. Y compris pour la fiscalité française, c'est pas négligeable. Lorsque les prix immobiliers augmentent, c'est évidemment plus de rentrées fiscales.
C'est une jungle. La fiscalité immobilière est une véritable jungle. Je viens de recevoir un rapport de l'OCDE sur un comparatif de la fiscalité immobilière. On n'arrive plus à y retrouver ses petits.
Alors, Vincent Renard, vous évoquiez à l'instant ces publicités qui incitent les consommateurs à acheter des appartements ou des voitures, même pour l'instant par l'immobilier. Est-ce que, et on se souvient des dirigeants anglais, français, qui cherchent à faire de leurs concitoyens des propriétaires immobiliers, est-ce que pour un État, un propriétaire, et pour une croissance économique, un propriétaire, c'est plus intéressant qu'un locataire ?
Il y a un très bon rapport de l'OCDE sur l'impact sur l'emploi et c'est clair que la mobilité des salariés est un facteur positif pour la croissance. Alors ceci dit,
quand on est locataire, on est plus mobile.
On est plus mobile et c'est meilleur pour l'économie vu de façon abstraite. Concrètement, l'immobilisme est extrêmement fort pour des raisons évidentes. Un ménage qui a acheté son logement, 3 enfants, etc., aura beaucoup de scrupules à déménager. Donc il y a 2 choses contradictoires. Un, sur un plan théorique, en effet, c'est favorable à l'emploi d'avoir beaucoup de locataires. 2, dans les faits, c'est extrêmement contraint par les comportements.
Thomas Gébine.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a un autre effet, c'est qu'aussi les politiques qui visent à accélérer l'accession à la propriété, c'est aussi une façon de booster la demande de logement. C'est ce qu'on a vu l'année dernière, notamment avec le président de la République. Lorsqu'il annonce un renforcement du prêt à taux zéro, c'est une façon de relancer la construction parce que l'objectif, c'est que les ménages demandent plus de logements. Donc c'est aussi une façon de booster la croissance et booster la construction. On observe ça aussi au Royaume-Uni où il y a eu un programme emblématique de David Cameron qui s'appelait Help to Buy où on pouvait acheter un logement avec un apport de 5% seulement. C'est aussi l'objectif, c'est moins en soi que les ménages puissent se loger qu'un objectif de relancer à court terme la construction et l'emploi. Et Margaret Thatcher, par exemple, dans les années 80 avait mené la même politique ou Clinton dans les années 90 avait mené la même politique. Donc je pense qu'il y a peut-être des arrière-pensées aussi derrière ces programmes qui visent à faire une société de propriétaires et tout. Il y a peut-être des arrière-pensées macroéconomiques derrière.
Alors on peut pas dans cette émission faire l'impasse sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez commencé à l'évoquer, Thomas Gébine, dans les années 2007-2008, il y a eu une catastrophe économique qui a plongé le monde dans une crise économique terrible. C'est vraiment la bulle la plus forte qui a été éclatée. Est-ce que c'était une bulle immobilière, cette affaire des subprimes ?
Pas sûr que ce soit la bulle en valeur absolue la plus forte. Après, on peut discuter des conséquences, mais en termes de hausse des prix, par exemple en Irlande ou en Espagne, la hausse des prix a été plus importante. Ou même en Chine, dont on parlait tout à l'heure, la hausse des prix est plus importante. Après, le problème des subprimes, c'est comment financer le crédit. C'est-à-dire que si vous permettez à des ménages peu solvables d'accéder au crédit, c'est bien à court terme, parce qu'évidemment, ils peuvent acquérir un logement, surtout dans une période où leur salaire n'augmente pas. C'est une façon d'augmenter leur pouvoir d'achat. Donc ça part d'une bonne volonté à court terme. Après, évidemment, c'est au moment où ça se retourne, au moment où les taux d'intérêt augmentent, si vous avez un prêt à taux variable, eh bien, d'un coup, vous vous retrouvez étranglé. Et donc là, la catastrophe aux États-Unis est venue du fait que voilà, les ménages se sont retrouvés étranglés, ont dû vendre le logement très rapidement, se débarrasser de leur logement et donc ont été ruinés. Parce qu'en France, par exemple, le mécanisme serait probablement plus doux puisque justement les prêts sont à taux fixe et il y a moins l'endettement des ménages est relativement plus faible.
Vincent Renard, il y a un nom qu'on ne peut pas laisser de côté quand on parle des États-Unis, de l'immobilier en ce moment, c'est celui de Trump, de Donald Trump, le président élu, qu'on décrit souvent comme un magnat de l'immobilier. Est-ce que c'est quelqu'un qui a bénéficié de cette insolente santé de l'immobilier américain? Est-ce qu'il décrit bien une trajectoire économique nationale.
Pour moi, c'est extrêmement mystérieux, l'émergence de Trump. Un, il a fait les affaires absolument comme un rapia dans ces milieux-là, où le respect des règles est souvent assez léger. L'immobilier aux États-Unis sur la côte Est, c'est souvent très à l'aise avec l'ensemble des règles. Et puis on fait de la cavalerie régulièrement. Trump a passé sa vie à faire de la cavalerie. C'est-à-dire, on prend un nouvel emprunt avant d'avoir remboursé l'ancien. Et il était excellent là-dessus, hein. Il ne faut pas s'y tromper. Il était excellent, ce qui fait écarquiller les yeux de beaucoup de bons citoyens états-uniens qui disent « il est drôlement fort ce type, à tel point qu'il a été élu ».
Mais est-ce qu'il y a un lien entre... parce que c'est un financier, Trump. Avant tout, est-ce qu'il y a un lien entre ces mondes de la finance et le monde de l'immobilier ? Est-ce qu'il y a des hedge funds, des fonds spéculatifs qui sont dans cet univers-là ?
Maintenant, oui, mais enfin...
Je pense qu'il y a un lien très fort, parce qu'en fait, la plupart des produits financiers sont adossés à l'immobilier. Donc, lorsque l'immobilier se casse la gueule, pour reprendre l'expression, les produits financiers se cassent la gueule aussi, puisque la plupart des produits financiers sont de nouveau adossés à des biens immobiliers ou sont utilisés dans des opérations liées à l'immobilier.
Alors, c'était Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Merci à vous deux, Thomas Gjebine et Vincent Renard, d'avoir participé à cette émission qui a été réalisée par Guillaume Munier. Si vous voulez nous réécouter ou simplement entendre une nouvelle fois les reportages qui étaient diffusés dans ce programme, rendez-vous sur le site internet que vous connaissez bien, www.rfi.fr. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.